France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le tournage du film américain Cruising, la chasse en français. Peut-être que son nom ne vous dit rien. Après tout, peu de gens l'ont vu à sa sortie en 1980. Vous connaissez plus probablement son réalisateur, William Friedkin, célèbre notamment pour L'Exorciste. En tout cas, si Cruising n'a pas marqué les esprits, il les a sévèrement échauffés au moment de son tournage à New York en 1979. Avec ce projet, son neuvième, le cinéaste veut tourner un policier à la trame assez classique finalement. Un tueur en série qui s'attaque toujours au même type de victime et un enquêteur lancé sur ses traces. Mais beaucoup moins banal. Il choisit de situer ses meurtres dans les boîtes sadomasochistes homosexuelles de Manhattan. Pour lui, c'est le cadre idéal pour un thriller, ambigu et inquiétant à souhait. Mais pour la communauté gay, ce n'est rien d'autre qu'un parti pris homophobe qui assimile pulsions homosexuelles et criminelles et qui risque de saper les efforts d'intégration de toute une communauté de plus en plus soucieuse de son image. Durant tout l'été 79, des centaines d'activistes gays vont se mobiliser pour empêcher la sortie du film qu'ils agonissent avant même de l'avoir vu. C'était comme filmé en zone de guerre, écrira William Friedkin dans ses mémoires. Al Pacino, l'acteur principal, lui, n'en dira rien. Jamais. Il aurait même demandé que Cruising soit retiré de sa filmographie. C'est ce qu'on appelle une affaire sensible qui génère un récit dans lequel vous entendrez des extraits du film ainsi que du documentaire intitulé « Exorciser Cruising ». Notre invité aujourd'hui, Didier Roth-Bettoni, journaliste, historien du cinéma LGBT et auteur du livre « L'homosexualité au cinéma » paru aux éditions La Musardine. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
2007, Festival de Cannes. Une petite foule élégante se presse à une projection de la quinzaine des réalisateurs. Au programme ce soir, un film de William Friedkin, un cinéaste habituel de la croisette. L'année précédente, son film Bug, où il aborde ses thèmes fétiches, la paranoïa et la folie, y a été très bien reçu. Et d'ailleurs, c'est un habitué des honneurs. Il a connu le succès critique et public avec des films comme French Connection, excellent polar sur fond de filière marseillaise du trafic d'héroïne, pour lequel d'ailleurs il a reçu l'Oscar, et L'Exorciste, qui mettait en scène, souvenez-vous, une jeune fille possédée par le diable. Tous deux sont devenus des classiques du cinéma américain. Et si Friedkin a fait le déplacement cette année, c'est pour présenter un autre de ses films, Cruising, sorti en 1980.
Bonsoir et bienvenue à cette séance spéciale de la quinzaine des réalisateurs. Une séance que je qualifierais de très très spéciale à beaucoup de points de vue. C'est un film qui est admiré par de nombreux fans. C'est aussi un film que des gens n'ont pas vu parce qu'il est demeuré invisible. Et on va pouvoir constater que ce film, qui a été extrêmement controversé, qui a été un énorme scandale au moment de sa sortie, était sûrement un film qui était en avance sur son temps, sur son époque. Et c'est un film qui aujourd'hui a des ramifications dans le cinéma contemporain. Et le revoir aujourd'hui, je pense que c'est très très intéressant. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur William Friedkin.
J'espère que vous applaudirez comme ça à la fin du film. Le réalisateur quitte l'estrade et l'obscurité se fait dans la salle. À l'écran, un chalutier apparaît. Il vogue sur le fleuve Hudson dans la baie de New York. Très vite, un membre de l'équipage repère quelque chose qui flotte à bâbord. Les spectateurs découvrent en même temps qu'il s'agit d'un bras humain. Le ton est donné, Friedkin invite à une plongée en eau trouble. Dans la séquence suivante, le bras repêché est placé dans un tiroir de morgue sur lequel on peut lire « Circonstances indéterminées, enquête de police en cours ». Ce crime odieux n'est pas le premier. D'autres hommes ont été tués dans des circonstances similaires. La police de New York piétine, mais elle sait que les victimes sont tous des hommes homosexuels pris pour cible par un tueur en série. Et pas n'importe où, non. Dans des clubs sadomasochistes, ambiance fouet, cuir et menottes. Alors on met un jeune flic ambitieux à plein temps sur l'affaire, un certain Steve Byrne. À l'écran, c'est Al Pacino. Il va devoir s'immerger dans ces endroits très spéciaux et faire remonter des informations qui permettront de mettre la main sur le tueur. Cet acteur n'a pas été choisi par hasard, et évidemment. Avec ses cheveux, ses yeux noirs, il ressemble aux victimes. Il servira d'appât, et surtout, cette émission sous couverture. Son identité de policier doit rester secrète, et il doit couper tout lien avec ses proches. Un infiltré, quoi. Le commissaire Adelson, son supérieur joué par Paul Servino, sera son seul contact.
How would you like to disappear?
Disappear?
Go undercover.
You know this man?
Who's here? I'm here. You're here.
These victims.
A New York City detective in search of a killer is about to disappear into the night.
Is it dangerous?
I can't talk about it.
Al Pacino.
He's here. I'm here. You're here.
Cruising.
L'intrigue ne sort pas complètement de l'imagination de William Friedkin, qui est aussi scénariste, non. Il s'est inspiré d'un roman écrit en 70 par Gerald Walker, un journaliste du New York Times Magazine, déjà intitulé Cruising. Le livre raconte effectivement l'histoire d'un policier infiltré qui enquête sur un tueur d'homosexuel. À sa parution, Phil D'Antoni, le producteur du film French Connection, propose à Friedkin d'en faire un film. Le cinéaste jette un œil au roman, mais il n'est pas emballé par l'idée, et donc il ne donne pas suite. En vérité, c'est une succession d'événements, quelques années plus tard, qui va le faire changer d'avis. En 1979, plusieurs articles paraissent dans le Village Voice, l'hebdomadaire à grand tirage de la contre-culture new-yorkaise. Ils sont signés Harvey Bell, chroniqueur et militant pour les droits homosexuels. Il y relate, avec force détail, une série de décès inexpliqués dans West Village. D'abord des morts d'une étrange maladie qui ne dit pas encore son nom, mais qui se révélera sous le signe de quatre lettres maudites, S-I-D-A, SIDA, bien sûr. Et puis des morts violentes, des hommes sont assassinés dans des clubs SM. Il se trouve que Friedkin a déjà entendu parler de ces boîtes par l'un de ses amis, inspecteur de police, un certain Randy Jorgensen, qui était son consultant sur le tournage de French Connection. Jorgensen a lui-même dû infiltrer les clubs SM pendant des mois pour mettre la main sur un tueur qui y sévissait. Il ne s'est pas étendu sur ce qu'il a vu, mais il n'a pas caché au réalisateur que l'expérience l'avait perturbé. C'est un troisième élément, particulièrement troublant pour Friedkin, qui va le convaincre d'écrire Cruising. Un matin, en lisant le journal, il découvre le visage d'un homme accusé d'être le tueur d'homosexuel. Il n'en croit pas ses yeux, il le connaît mieux, il l'a filmé. Il raconte sa surprise à Laure Adler, qui le reçoit en 2013 dans son émission Hors Champ sur France Culture.
Il y a une scène dans l'Exorciste où l'on voit un infirmier et un médecin qui font un artériogramme au sujet étant la petite fille qui semble posséder.
I used the real surgeon,
neurosurgeon, fait appel à un neurochirurgien
and his male nurse,
et son infirmier
turned out to be a serial killer
était
of gay men.
Un serial killer qui tuait des homosexuels.
He was not an actor.
C'était pas un comédien, cet
he homme-là. Was a male nurse.
Il était infirmier de métier.
At the NYU, New York University,
et il travaillait
Medical Center,
au centre médico-hospitalier de l'Université de New York où nous avons fait le tournage.
Moins
de 4 ans après le tournage de l'Exorciste, je vois la photo de cet homme
on the front page
à la
of the New York
une
Daily News.
Du journal The New York Daily News.
intrigué, Friedkin rend visite en prison à Paul Bateson, l'infirmier en question, qui lui confirme avoir rencontré Addison Verrell, un critique de théâtre au Mineshaft, la boîte GSM la plus en vue de New York, et de l'avoir tué, coupé en morceaux et jeté dans l'Hudson. Friedkin tient son histoire. Il mixe tous ces éléments étranges et transporte l'intrigue du roman de Walker dans les bars cuir de Manhattan. En 4 semaines, son script est écrit. Et après quelques refus de sociétés de production, la Lorimar accepte de financer Cruising. Il y a tout de même un détail. Friedkin n'a jamais mis les pieds dans ces bars. Il faut qu'il y aille, car il veut tourner son film In Situ. Le réalisateur vient du documentaire et ne recule devant rien pour faire naître le réalisme devant sa caméra. Dans la New York des années 70, les lieux nocturnes gays, entre autres, sont tenus par la mafia. Alors Friedkin fait jouer ses relations. Il connaît par exemple Matty Ianello, le parrain qui contrôle la Mineshaft, où l'infirmier de l'exorciste a rencontré sa victime. Ianello a adoré French Connection et il accepte de laisser le réalisateur faire des repérages dans son club, à condition qu'il ne soit jamais fait mention dans Cruising des liens entre ces établissements et la mafia. L'établissement Le Mineshaft se trouve dans le Meatpacking, l'ancien quartier des abattoirs à l'ouest de Manhattan. Aujourd'hui, c'est un quartier branché avec ses boutiques de créateurs et ses hôtels de luxe. Mais au tournant des années 80, c'est une zone glauque, mal famée. Le Mineshaft, c'est un peu l'équivalent du Studio 54, mais version 100% masculin et pratiques extrêmes. Des inconnus et des célébrités fréquentent les lieux. Andy Warhol, Michel Foucault, Freddie Mercury sont venus. Mais il ne suffit pas d'être célèbre pour passer la porte où il est inscrit « Club privé, membre exclusivement ». Le portier aurait refoulé par exemple Mick Jagger parce qu'il s'était présenté avec 2 filles à son bras, ou encore Rudolf Nureyev qui n'avait pas le bon dress code. Franklin lui se rend plusieurs fois au Mineshaft avec Jerry Weinbrot, son producteur, pour la préparation de Cruising. Et il n'est pas prêt d'oublier ce qu'il a vu.
I was astounded by what I saw.
Abasourdi par ce que j'ai vu.
I had to take all my clothes off.
Il a fallu que je me déshabille totalement.
Except to wear a jockstrap.
Je gardais juste un mini slip, c'est tout.
And many of the people in the club wore nothing.
Il y avait plein d'hommes qui étaient là, totalement à poil.
And I got to know them.
Et
je les ai rencontrés
et puis j'ai pu voir ce qui se passait.
I cannot repeat to your listeners.
Encore une fois, si vous avez des auditeurs un peu jeunes, je ne veux pas les choquer.
As a film director,
en tant que réalisateur,
you have to be curious
il faut
about
être
everything.
Curieux et il faut s'intéresser
and
à
afraid
tout.
Of nothing.
Et il faut avoir peur de rien.
Reste à trouver l'acteur qui sera aussi aventureux que lui et incarnera Steve Burns, le policier undercover. Friedkin veut Richard Gere. Il le trouve parfait pour le rôle. Et Gere est partant. Le réalisateur s'apprête donc à lui faire une offre quand un coup de téléphone vient rebattre les cartes. C'est l'agent d'Al Pacino. Son client a lu le scénario et il veut le rôle. Et il se trouve que le personnage de Burns est fascinant, ambigu à la fois moralement et sexuellement. En 1979, en plus, on ne dit pas non à Al Pacino. Avec des films comme Le Parrain 1 et 2, Serpico ou encore Un après-midi de chien, l'acteur a traversé les années 70 comme une comète et il est passé du statut d'inconnu à celui d'acteur puissant du genre de ceux qui font et défont les projets. Friedkin accepte donc de l'embaucher, mais un peu à contre-cœur. Oh, il n'a rien contre lui à titre personnel, mais l'image de l'acteur, selon lui, ne colle pas trop à l'idée qu'il se fait de son Steve Burns. Pacino n'a pas le physique androgyne de Richard Gere. Pour le dire vite, il le trouve un peu trop italien. Mais c'est un des meilleurs, et jusqu'à preuve du contraire, c'est un poids lourd du box-office. Le marché est donc conclu, et rapidement, la presse annonce le tournage pour le début de l'été. La nouvelle se propage immédiatement dans la communauté gay. Des copies pirates du script se mettent à circuler. Une partie des homosexuels se crispe d'emblée parce qu'elle craint le pire. Des meurtres d'homosexuels dans un milieu hyper sulfureux et violent, le tout filmé par un cinéaste hétérosexuel qui a déjà dépeint de façon datée l'homosexualité masculine dans l'un de ses précédents films, on s'en souvient, Les Garçons de la Bande. Cruising est tout de suite catalogué comme nauséabond et dangereusement homophobe. Avant même le premier coup de manivelle, l'hostilité totale. Des groupes de pression envoient une pétition au maire de New York, Ed Koch, pour qu'il refuse d'accorder les autorisations de tournage. Ce que New York compte de journalistes gays influents déclare la guerre à Cruising. Les bars qui avaient accepté d'ouvrir leurs portes à l'équipe de tournage subissent des pressions et se rétractent. Puis ce sont les menaces de mort, oui, pour Friedkin. D'abord au compte-gouttes, très vite à l'appel. C'est dans ce contexte, pour le moins tendu, que commence le tournage de Cruising le matin du 2 juillet 1979. Mais la charge la plus brutale est à venir. Dans l'édition des Village Voice du 16 juillet, Arthur Bell, le journaliste qui avait lui-même rapporté les assassinats bien réels dans les clubs, appelle à une croisade contre le film. Cruising s'annonce comme le film le plus accablant, insultant et sectaire jamais réalisé sur l'homosexualité, écrit-il. J'implore les lecteurs gays, hétérosexuels, libéraux, radicaux, athées, communistes, peu importe, de rendre à Friedkin et à son équipe la vie impossible dès que vous les verrez tourner dans votre quartier. Il va être entendu au-delà de ses espérances, et pour William Friedkin, tout comme pour Al Pacino, l'été sera chaud. Pendant la dizaine de semaines que dure le tournage de Cruising, une partie de la communauté homosexuelle de New York s'emploie à le saboter méthodiquement. Le scénario prévoit des scènes dans les clubs, bien sûr, mais aussi dans les immeubles, dans la rue ou dans Central Park. Eh bien, les fauteurs de troubles sont partout, tout le temps. Disons qu'ils jouent à domicile et qu'ils ont l'avantage du territoire. Friedkin a en effet planté le décor de son thriller en plein cœur du quartier gay, autour de Christopher Street. Et c'est ici que Steve Burns, alias Al Pacino, a son pied-à-terre dans le film, pour le temps que dure sa mission. Les activistes déploient alors des trésors d'imagination pour empêcher le cinéaste et son équipe de travailler. Ils ruinent, oui, véritablement, ils ruinent les prises à coups de fil et stridents et de cornes de brume. Les militants les plus renseignés parviennent à savoir dans quels appartements Friedkin a prévu de tourner et font hurler des enceintes stéréo chez les voisins. D'autres, postés sur les toits, dirigent de grands panneaux réflecteurs sur le plateau pour saper le travail d'éclairage. Les militants se réjouissent de leur pouvoir de nuisance, comme lors de ce sit-in organisé en marge du tournage.
Hier, l'équipe du film, les producteurs de Cruising, n'ont pas pu filmer sur Christopher Street comme ils l'avaient prévu. Oui, moi aussi je suis contente. Ils n'ont pas pu filmer parce que la communauté gay s'est mobilisée et a exprimé toute son indignation contre ces gens. Ce soir, on va marcher et on va exprimer notre reconnaissance à nos frères gays. Collaborer avec nous et pas avec William Friedkin.
La plupart des scènes doivent être tournées de nuit pendant que des centaines de protestataires hurlent des insultes aux comédiens et techniciens. Puis ce sont des jets de pierre et de bouteilles. L'équipe du film en est réduite à riposter, oui, elle est rejointe dans la bataille par d'autres hommes homosexuels, les habitués des clubs SM dont certains travaillent comme figurants dans le film. Le 26 juillet, cette guérilla urbaine atteint son paroxysme. Plus tôt dans la journée, des représentants de la National Gay Task Force, l'organisation nationale de soutien des personnes LGBT, ont de nouveau demandé au maire Ed Koch de retirer les permis de tournage. Et le maire, de nouveau, a refusé de s'en mêler. Pour lui, ce serait de la censure, ni plus ni moins. Et ce n'est vraiment pas l'image qu'il veut donner à New York, lui qui cherche à attirer les projets de cinéma et l'argent qui vont avec. Sa prise de position fait encore monter la tension d'un cran. Le soir venu, des milliers de manifestants battent le pavé. Toutes les forces de police montées de New York sont mobilisées pour contenir les débordements. Cruising got to go, Cruising doit dégager. Un autre slogan s'est fait aussi entendre dans la foule, Remember the Stonewall. Souvenez-vous de Stonewall. En cet été 79, la communauté gay commémore en effet le 10e anniversaire des émeutes du même nom. 10 ans pile que le quartier de Greenwich s'est enflammé en réponse à un raid policier au Stonewall Inn, à un bar homosexuel. Les événements ont marqué la véritable éclosion du militantisme gay aux États-Unis, ces événements-là. Depuis, les homosexuels se battent contre les discriminations et les brimades. Et pour être intégrés à l'American Way of Life, comme tout le monde, alors non, décidément, Cruising ne passe pas. Les militants affirment qu'en dépeignant un aspect brutal et dérangeant du mode de vie gay, le film va ramener la communauté plusieurs années en arrière et surtout, il va déchaîner la violence contre elle. Ce militant qui prend la parole lors d'un rassemblement le 20 août 79 en est convaincu.
Je veux juste dire quelques mots sur ce film. On nous a balancé beaucoup de choses à la figure. Le Premier Amendement, la liberté d'expression. Arrêtons-nous une minute. Souvenez-vous du temps d'avant votre coming out. Repensez à la peur et au doute. Repensez à ce sentiment de liberté quand vous avez dit haut et fort « Je suis lesbienne, je suis gay ». Et je n'ai pas honte. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il va se passer avec ce film. Ce film va nous renvoyer dans le placard. C'est un film qui va faire renaître cette peur. C'est un appel au meurtre d'homosexuels. Nous.
Mais Friedkin ne cède pas à la pression. C'est tout autre chose, en revanche, pour Al Pacino qui vit très mal ces événements. La dureté des thèmes du film et son immersion dans le monde SM, dont il ignore tout, l'affectent déjà énormément. Mais surtout, il y a les conditions de travail. Habitué à l'amour du public, il se retrouve hué, insulté, accusé de collaborer à un projet homophobe, voire criminel. Entre les prises, il fait les 100 pas dans sa caravane. Il essaie de se détendre en lisant du Brecht à haute voix, mais pas moyen d'échapper à la rumeur et au slogan. Son statut de star ne le protège en rien de la rage des manifestants, au contraire. Dans une scène du film anodine pour le spectateur, on le voit marcher seul la nuit dans Greenwich Village. Ça, c'est devant la caméra, parce que derrière, comme le racontera plus tard Friedkin, il faut imaginer des centaines de manifestants en train de l'agonir d'insultes et de menaces. Pacino doit jouer comme s'il n'y avait personne, mais la peur se lit sur son visage. Une autre scène où il est simplement censé quitter l'immeuble s'avère impossible à tourner parce que des activistes refusent de quitter le perron et l'entravent dans ses mouvements. sans cesse pris à partie, il doit être mis sous escorte. Son partenaire dans le film, Don Scardino, se souvient de l'un de ces épisodes agités.
On est allé déjeuner dans un café pour répéter une scène. En une demi-heure, une foule d'environ 200 personnes s'était formée devant le café. Ils avaient arrêté la circulation, tout le commerce dans la rue. Il fallait trouver un moyen de faire sortir Al. Il devait traverser la foule, il n'y avait pas d'autre issue. Alors, son garde du corps a dit « Ok, j'appelle mon bureau, ils vont nous envoyer une douzaine de mecs en renfort. On vous ferait un passage. » Al était assis, l'air complètement morose. Ils ont formé un passage, ils ont ouvert la porte, les gens hurlaient « Monsieur Pacino, Monsieur Pacino !» Les journalistes étaient là. « On peut vous parler ? On peut vous parler ?» On a couru jusqu'à l'arrière de la voiture et on a démarré. Al était assis devant, il se tenait la tête dans les mains.
Al Pacino se retrouve au cœur d'une polémique qui le dépasse, un comble pour cet acteur qui a toujours pris soin d'éviter la presse et les prises de position politiques. Il se trouve que l'été 79 coïncide avec sa décision de donner la toute première interview de sa carrière. Ce sera l'occasion de dire son malaise au journaliste du magazine Playboy, Lawrence Gorbel, qui a su gagner sa confiance. Visiblement anxieux, il explique que oui, si la communauté gay a l'impression que le film lui nuit, il comprend qu'elle proteste. Comment peut-on attaquer un film qu'on n'a pas vu ? Et puis, se défend-il, il n'est pas homophobe. Et il ne lui est jamais venu à l'idée que le film pouvait l'être. Il le répète, comme le réalisateur et producteur depuis des semaines, Cruising ne montre qu'un fragment de la communauté homosexuelle. De même que la mafia n'est qu'un fragment de la communauté italo-américaine, ajoute-il. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans une telle situation. C'est bouleversant. Je suis abasourdi. Finira-t-il par lâcher ? En septembre 79, le tournage infernal prend fin. William Friedkin s'enferme en salle de montage pendant des semaines. Un mois et demi de travail de post-production sont nécessaires rien que pour réparer les dégâts sonores causés par les manifestations. Quand Richard Hefner, le président du comité de classification des films aux USA, découvre la première version de l'œuvre, il s'étouffe. Il n'y a pas assez de X dans l'alphabet pour classer ce film, lance-t-il à Friedkin. C'est vrai qu'on est assez loin de l'univers fourfoutant de la cage aux folles. Les scènes de meurtre, très crues, succèdent aux scènes de bondage et de sexe explicite. Le cinéaste doit couper 40 minutes de son film pour qu'il échappe au classement X et donc au suicide commercial. Mais les ennuis ne sont pas terminés. Cruising n'est pas encore sorti que San Francisco, l'autre grande ville de l'activisme gay, se mobilise. 2 ans auparavant, Harvey Milk a été assassiné. Le sujet des crimes homophobes y est particulièrement sensible. Contrairement au maire de New York, Diane Feinstein, la maire de San Francisco, ne veut pas de Cruising. Elle craint des débordements et elle exhorte la société distributrice, la United Artists, à ne pas sortir dans sa ville. Refus catégorique. En réaction, Diane Feinstein exprime son écœurement devant les caméras de télé.
Je pense que ce qui va ressortir de tout ça, c'est qu'il y a une coalition qui va se former pour boycotter les sociétés de production qui persistent à montrer ce genre de déchets provocateurs qui sont des appels à la violence. Je pense que l'Amérique en a assez. Elles devraient prendre leurs responsabilités et penser à la sensibilité des personnes.
La première de Cruising à San Francisco est prévue au cinéma Ghirardelli. Des tags Stop Cruising avec 3K comme ceux du Ku Klux Klan et Stop Killer Movie apparaissent sur ses murs. À la hâte, le propriétaire déprogramme le film qui se retrouve relégué au St. Francis, un cinéma minable en bordure du Tenderloin, le quartier de la drogue et de la prostitution. La chargée de com' de la United Artists fait pourtant tout son possible pour calmer les esprits. 3 jours avant la sortie nationale du film, elle organise à San Francisco une avant-première spéciale pour une quarantaine de journalistes gays et membres du comité anti-cruising. Ses invités triés sur le volet sont les seuls admis à la séance. Eux et des policiers en armes. Peine perdue, interviewé à chaud en sortie de salle, les spectateurs n'ont pas de mots assez durs.
Tous les jours dans cette ville, des dizaines de gays se font passer à tabac, presque tués. Non seulement ce film va exacerber ça, mais c'est presque une incitation à sortir dans la rue et à assassiner des gens.
Nous ne demandons pas à ce que le film soit retiré de San Francisco. Nous demandons qu'il soit retiré de la circulation, du pays.
Je pense qu'il serait intelligent de la part de la société de production de rendre service au pays et de le retirer. Je ne parle pas du point de vue de la censure. Du point de vue du mauvais goût, c'est de la merde.
Le film sort finalement sur les écrans américains le 15 février 1981, sans que la United Artists n'ait communiqué sur les cinémas qui le mettraient à l'affiche, de peur de nouvelles manifestations. Friedkin est donc contraint d'ajouter un avertissement avant la projection. Ce film n'est pas un réquisitoire contre l'homosexualité, il ne dépeint qu'une minorité non représentative. Mais malgré tous ces efforts, rien à faire, les critiques sont assassines. En France, le film arrive en septembre de la même année, précédé de sa réputation sulfureuse. « Tout ce qu'on a pu vous dire sur Cruising est vrai », dit la pub. Chez nous aussi, il est unanimement étrié. Voici le film le plus racoleur, le plus complaisant et le plus inutile de cette rentrée, annonce par exemple Les Échos. Le critique Henri Chapier n'est guère plus tendre sur le plateau de Soir 3.
Ce film où Al Pacino accomplit une performance absolument extraordinaire pose néanmoins un grand problème moral. Jusqu'à quel point peut-on montrer au cinéma des images extrêmement violentes lorsque finalement on a très peu à dire ? Ce que l'on voit est parfaitement insoutenable parce qu'en dehors des cadavres mutilés, on voit aussi les bas-fonds de New York et on voit surtout une réalité humaine détestable, un ramassis pratiquement de gens dévoyés et détraqués. Fort bien, mais pour l'admettre, encore fallait-il avoir un propos.
Et puis alors, inutile de compter sur Al Pacino pour défendre le film. Lui aussi il l'a vu, et lui aussi il le hait. Le résultat le laisse même dans un état de confusion et de colère froide. C'est bien simple, il n'y comprend rien. C'est vrai que Friedkin a pris ses distances avec les conventions du film policier. Il est évident à l'image que le tueur n'est pas toujours interprété par le même acteur. Il n'y aurait donc pas un, mais plusieurs assassins. La fin du film, ouverte et sujette à interprétation, suggère qu'un de ces tueurs pourrait même être le personnage du flic, Al Pacino lui-même. Et là, l'acteur se sent trahi. Pourquoi le réalisateur ne lui a-t-il rien dit ? Il aurait joué Steve Burns tout à fait différemment. Friedkin a beau lui expliquer qu'il a trouvé cette idée au montage, Pacino est hors de lui, parce que là, c'en est trop. Alors, il se désolidarise complètement du film, n'accorde aucune interview et ne fait aucune promotion. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est tenu à ce silence public complet depuis 40 ans. Dans les cérémonies qui célèbrent sa longue carrière et ses collaborations prestigieuses, Cruising n'est jamais mentionné. Il faut attendre 2007, donc, et sa sortie en DVD, pour que le film soit réexaminé par les critiques, non pas comme objet politique, mais cinématographique. Et en partie réhabilité, notamment dans la communauté homosexuelle. Cette année-là, Friedkin est même invité à présenter Cruising dans un cinéma des Castro, le quartier gay de San Francisco. Happening, encadré par une douzaine d'agents de sécurité, postés dans le hall d'entrée en cas de reprise des hostilités. Et finalement, la soirée se passe dans le calme. Au-delà de ses qualités artistiques, toujours débattues, le film reste surtout un document, le témoin d'une époque disparue, celle de la parenthèse des années 70, durant laquelle la communauté gay a vécu sa libération avant que le sida ne vienne gâcher la fête. Au milieu des années 80, les autorités sanitaires new-yorkaises décident la fermeture des Mein Shaft et des autres clubs SM pour lutter contre l'épidémie. Friedkin le sait et le dit. Beaucoup des hommes qu'il a filmés dans Cruising ont été emportés par la maladie, comme une partie de son équipe. Impossible pour nous également de l'ignorer.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Sur France Inter, Take a Walk on the Wild Side, va voir les zones interdites, va voir les zones d'ombre. C'est bien ce que nous raconte le film Cruising, dont nous avons raconté l'histoire et dont nous allons parler avec notre invité aujourd'hui, Didier Roth-Bettoni. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, historien du cinéma LGBT, auteur du livre L'homosexualité au cinéma, paru aux éditions La Musardine. Alors, avec votre œil de critique et d'historien, les accusations d'homophobie envers le film vous semblent-elles justifiées? Parce que c'est quand même la question centrale.
Oui, oui, effectivement, c'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre très clairement, enfin très directement.
Moi,
je crois pas que le film.
Pourquoi?
Parce que je crois pas que le film soit homophobe du tout. Je pense que quand on le revoit aujourd'hui, avec le temps qui a pu passer, avec tout ce qui a pu se passer, on voit bien que le film ne porte pas un discours sur l'homosexualité du tout. Que c'est même un film qui, au contraire, contrairement à la plupart de ce qui des productions de l'époque, garde une certaine distance, une forme de réalisme dans la représentation de l'homosexualité. Mais par ailleurs, je peux très bien comprendre que le film ait été vécu comme un film homophobe au début des années 80, quand il a été montré. Donc, à la fois non et oui, peut-être, d'une certaine manière. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire en disant qu'il y avait une forme d'ambivalence dans le film.
Ça veut dire que vous comprenez la colère et le rejet pour Cruising de la part de la communauté gay avec le recul?
Oui, bien sûr. Je pense qu'à l'époque, si j'avais été américain à la fin des années 70, il est probable que j'aurais peut-être manifesté avec eux contre le projet même du film. Parce que c'est ça qui est vraiment très intéressant et que votre récit met vraiment bien en avant. C'est que c'est pas tant le film lui-même qui a provoqué ces réactions, mais la création du film. Le fait que ce film, va devenir quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va être, mais dont on présuppose à cause de tout ce qui s'est passé, de tout le cinéma hollywoodien de l'époque, que ce film va être homophobe. Et c'est vraiment ce sentiment-là qui provoque la réaction extrêmement virulente de la communauté homosexuelle à ce moment-là.
Mais qui est d'ailleurs surprenant, parce que la communauté gay, en principe, tolérante dans son regard sur la société, vu qu'elle a besoin, elle, de tolérance. Et c'est cette réaction épidermique comme ça, elle est étonnante, je trouve. Au regard de cela, vous voyez.
Oui, je comprends très bien. Elle est étonnante si on considère effectivement ce que vous dites, mais il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Mmh. Votre récit l'a bien raconté, mais en fait, il faut quand même avoir à l'esprit qu'à la fin de ces années 70, le contexte du militantisme gay américain, il est face à une hostilité qui est vraiment très importante. On est seulement 10 ans après les émeutes de Stonewall, hein, oui. Celles qui marquent le début du mouvement gay contemporain militant politique tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il est aussi le film, il arrive 2 ans après qu'une chanteuse de country qui s'appelle Anita Bryant a lancé à travers tous les États-Unis une campagne contre les droits des homosexuels. Et une campagne qui rencontre un succès public, un succès médiatique absolument phénoménal, qui va faire changer des lois dans certains États américains. Donc il y a un contexte qui est extrêmement fort, et puis il y a un contexte aussi cinématographique. Ce film, il arrive après plein d'autres films qui ont montré des homosexuels,
ah oui,
toujours alors, dans des rôles justement. De criminels, mm-hmm. ou dans des rôles de victimes. Et donc, là, on est face à des homosexuels qui sont à la fois des criminels et des victimes. Donc, c'est le banco assuré.
Hein. Ah oui, d'où la réaction et la crainte, effectivement, de la communauté homosexuelle. À sa sortie en France, le film a beaucoup déplu aux critiques, on en a entendu quelques-uns. Est-ce qu'il a énervé les associations LGBT, comme on dit aujourd'hui?
Non,
on disait pas à l'époque.
Oui. Non, on disait effectivement pas ça du tout à l'époque. Les choses se sont passées beaucoup plus sereinement, mais surtout dans une forme d'indifférence assez totale face au film. Enfin, le film a été vraiment un très très gros échec aux États-Unis, vous l'avez dit, mais en France aussi, ça a été vraiment un film qui a été très peu vu, très peu montré, très peu vu et pas aimé par ailleurs par ceux qui l'ont vu. Il a fallu pas mal d'années pour qu'il soit réhabilité.
On va se retrouver dans Didier Roth-Bettoni dans 3 minutes à peine, après avoir écouté Silk Sonic qui chante « Leave the door open », laisse la porte ouverte.
Sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So.
D'ailleurs, Bettoni, est-ce que la représentation gay dans le cinéma américain a évolué après Cruising, ce qui voudrait dire que Cruising aurait été une étape?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que Cruising a été une étape. C'est un moment de l'histoire américaine et de l'histoire du gay américaine, parce que c'est un film qui marque la charnière, comme vous le disiez très bien, entre les années 70, ces années un peu hédonistes, un peu de la libération, et les années 80 qui vont être celles du sida. Donc c'est un film qui se situe vraiment à ce moment-là. Mais on peut pas dire que le film ait provoqué des changements radicaux dans les représentations des homosexuels. Non, pas du tout. Alors... Il arrive... C'est une sorte d'acmé de ces représentations très hostiles, enfin, pardon, de ces représentations qui sont vécues comme très hostiles par les homosexuels. Il y a beaucoup de films, je le disais, qui avant ont présenté soit des criminels, soit des victimes, soit des personnages très torturés, qui finissent toujours mal. Il va y en avoir encore quelques-uns après. Et puis, avec le sida, les choses vont changer.
Ah, c'est là le tournant, d'accord.
Ah, c'est un des grands tournants, oui. Ouais. Vraiment, c'est avec le sida, les choses vont vraiment changer dans les représentations de l'homosexualité au cinéma.
Alors, en 2007, le film est réhabilité, donc de l'eau a coulé sous les ponts, hein, entre 1980 et 2007. Alors, effectivement, il y a eu le sida. Mais encore, je pense à un film, je ne sais pas si vous connaissez ce film américain, qui s'appelle Short Bus.
Bien sûr, oui.
Bon, ben voilà, là, il y a une évolution quand même dans Short Bus. Alors, on raconte aux éditeurs quand même en deux mots de quoi est composé ce film. Alors, il est dans la communauté homosexuelle, hein, masculine, c'est bien ça.
Et tout à fait, oui.
On montre les choses de façon tout à fait différente. Voilà, un lieu Short Bus de tolérance.
Un lieu où toutes les sexualités sont très libérées, tout à fait possibles. Il y a une grande fluidité des désirs, oui. Des plaisirs. Mmh. Voilà, donc c'est effectivement très différent de Cruising, qui lui se concentre vraiment sur un milieu très spécifique de la communauté gay américaine de la fin des années 70. Et c'est ça qui a aussi choqué. Parce que quand je disais tout à l'heure que le film avait heurté la communauté, c'est aussi parce que était mis en avant dans le seul film, parce que je disais qu'il y avait beaucoup de films qui parlaient d'homosexualité, qui montraient des homosexuels, mais il n'y avait aucun film dont c'était le sujet central. Et le seul film dans ces années 70-80 qui va avoir l'homosexualité comme sujet central à Hollywood, c'est Cruising. Donc les homosexuels se sont sentis agressés, qu'on ne les représente qu'à travers ce film qui paraissait se focaliser sur une partie très extrême, très marginale de la communauté. Et c'est de ça dont ils ont eu peur, c'est d'être assimilés tous à cette frange SM, qui par ailleurs est tout à fait respectable et honorable. Je ne porte pas aucun jugement moral là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui est frappant dans le jugement d'Henri Chapier, dont vous avez passé un extrait tout à l'heure, c'est que sa critique se focalise sur un aspect très moral, très moralisateur, très très étrange d'ailleurs sur le film. Mais donc voilà, donc et le film pour par contre, lui ne porte aucun jugement sur ce qu'il filme, sur cette communauté, sur les pratiques sexuelles qu'il montre. Jamais, à aucun moment, Friedkin ne juge ces pratiques. Au contraire, il les montre, il les filme, et c'est ce qui rend le film aujourd'hui extrêmement contemporain, extrêmement actuel, parce qu'il a une valeur documentaire essentielle.
Alors, valeur documentaire essentielle, c'est clair. Est-ce qu'il a une valeur artistique évidente?
Ah oui, je crois, oui.
Oui, vraiment.
Je crois vraiment.
Qu'est-ce que vous aimez? Mais qu'est-ce que vous aimez? Parce que moi, je trouve que le scénario est un peu décousu, mais enfin bon. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans?
Alors, j'aime beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup le travail de William Friedkin, et je trouve que ce film représente bien son travail, c'est-à-dire à la fois ce mélange de grand réalisme dans l'arrière-fond, et puis de grande ambiguïté dans les personnages. Les personnages ne sont jamais univoques, et là, c'est absolument fascinant de voir comment le personnage d'Al Pacino se transforme petit à petit à travers le film, comment petit à petit il découvre des parts de lui-même qu'il n'aurait jamais soupçonné ou qu'il refoulait comme d'autres personnages dans le film, comment le film maintient jusqu'à la fin, jusqu'à ce tout dernier regard d'Al Pacino dans le miroir où tout d'un coup il se tourne vers le spectateur et il ouvre pour le spectateur des gouffres absolument vertigineux. Je trouve que le film a une puissance comme ça d'évocation du trouble intérieur, des changements qui peuvent se passer dans un être humain qui est vraiment extraordinaire.
Alors c'est lié effectivement aussi au talent d'Al Pacino, puisqu'on l'a raconté, Friedkin ne lui avait pas dit qu'il y aurait une hypothèse pour le spectateur que le tueur soit aussi le personnage d'Al Pacino. Et là, Al Pacino a dit, mais si tu me l'avais dit avant, j'aurais peut-être joué différemment. Et il arrive quand même, au bout du compte, à faire une composition extraordinaire. C'est le talent d'Al Pacino, ça, tout simplement, non?
Peut-être. Moi, je ne suis pas un grand fan d'Al Pacino. Je suis pas un grand fan de. Pour moi, c'est une des faiblesses du film, c'est Al Pacino.
Ah bah c'est bizarre parce que tout à l'heure vous.
Ce regard, je pense que c'est pas lui qui l'a inventé. Je pense que Friedkin lui a vraiment dit de faire ce regard caméra à un moment donné, sans lui expliquer le sens forcément que lui pouvait y mettre. Je trouve que Pacino n'est pas le personnage, qu'il est très mal à l'aise dans beaucoup de séquences, et que c'est un peu ça la faiblesse du film, qu'il aurait fallu certainement un acteur plus charnel, plus peut-être que Richard Gere, qui n'est pas un très bon acteur souvent, aurait eu peut-être cette ambiguïté, lui, que Pacino n'a pas. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ces acteurs qui s'investissent tellement de leur rôle, qu'ils les pensent tellement qu'il n'en reste plus rien de charnel. Et Pacino, c'est un peu ça, quoi. C'est un acteur trop cérébral, je crois.
C'est l'école d'acteurs studio.
Exactement, mais c'est pas forcément ce que je préfère.
On a cru comprendre. Et justement, là, le fait, c'est ce comportement d'Al Pacino qui n'assume pas du tout. Quel regard vous portez là-dessus?
J'ai du mal à le comprendre. J'ai du mal à comprendre pourquoi, que sur le moment, il ait été choqué par le film, heurté même par sa collaboration avec Friedkin, je peux tout à fait le concevoir. Mais 40 ans après, je crois que le film a une place très forte dans sa filmographie et qu'il a vraiment tort de le refuser. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai vraiment du mal à me l'expliquer. Ça prouve que peut-être lui aussi trouve qu'il n'est pas très bon dans le film.
Lierod Betouni, je vous ai présenté comme journaliste, historien du cinéma LGBT. Le cinéma n'est-il pas avant tout cinéma, avant d'être homosexuel, hétérosexuel ou LGBT?
Sans aucun doute, je suis critique de cinéma, de tous les cinémas. Il se trouve que j'ai focalisé une bonne partie de mes recherches depuis pas mal d'années sur les représentations des gays, des lesbiennes, des personnes trans à l'écran, et j'essaie de raconter une histoire qui a été très peu racontée par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu très régulièrement des films qui ont présenté des personnages homosexuels, même si c'était pas forcément au centre de leur intrigue.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer, il nous reste 40 secondes, sur ce point précis de la représentation de l'homosexualité dans le cinéma français? Est-ce qu'il y a un ou deux films qui ont marqué des ruptures, des changements, des évolutions?
Il y en a un certain nombre. Oui, moi je pense beaucoup. Alors ça n'a vraiment rien à voir avec Cruising. C'est Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné au milieu des années 90, parce que c'est un film qui va lancer toute une vogue de jeunes cinéastes qui vont parler très directement de leur place de cinéaste homosexuel et qui vont filmer l'homosexualité. Je pense à des gens comme François Ozon, comme Sébastien Lifshitz, comme Olivier Ducastel, Jacques Martillot. Enfin, voilà, il y a toute une génération de jeunes cinéastes qui vont s'engouffrer à partir de ce film Les Roseaux Sauvages dans le cinéma français.
Parfait, bah écoutez, ce sera le mot de la fin pour une nouvelle histoire. Merci Lierod Betouni.
Merci.
Je rappelle que vous êtes historien du cinéma LGBT, bah tiens, je le redis, et auteur du livre L'homosexualité au cinéma, ce qui est plus juste d'ailleurs que historien du cinéma LGBT. Merci, merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire du film Cruising, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr pour plus de détails. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Troncin.